écoute de l'émission Méditation biblique, au micro Jacques Marchal. Chers amis, bonjour. Dieu dit un jour à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Il est évident que si nous raisonnons sainement en ce qui concerne l'Éternel, qu'il est primordial de se détacher de l'ensemble des dogmes et des superstitions dont nous avons été nourris depuis notre enfance et qui a conduit tant de gens vers l'indifférence et la perte totale de foi. Il ne s'agit pas là de quelque chose d'aisé à faire, mais notre but est de vous aider à vous diriger vers une autre chose, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Tout le monde, évidemment, n'est pas prêt à accepter la Bible comme étant une relation authentique de l'origine et de la destinée de l'homme. Par contre, nombreux sont ceux qui s'intéressent de très près à sa brève présentation du sujet lorsqu'il est analysé d'une manière critique. Mais que découvre-t-on dans les Écritures à propos de l'homme lorsque l'on a débarrassé son esprit des suppositions et des théories humaines? Ils disent qu'après avoir créé, Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ceci semble simple et clair, mais est-ce vrai? Oui, par les milliards de tombes qui parsèment le monde entier l'attestent. Les êtres humains ne continuent-ils pas d'ailleurs à mourir chaque jour? L'Éternel avait dit en effet après la désobéissance d'Adam, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Tout ceci est non seulement logique, mais prouve également que le livre de la Genèse est en parfaite harmonie avec la réalité des événements. Le fait qu'Adam ne soit pas vraiment mort le jour même de sa désobéissance à la loi divine ne prouve nullement que la peine de mort n'était pas réelle. Adam et Ève moururent une première fois spirituellement dans le sens que leur péché les sépara de leur Créateur, puis une seconde fois parce qu'au lieu de rester les êtres destinés à vivre éternellement qu'ils étaient, ils allaient devoir mourir après un certain nombre d'années. Le lent processus de la mort finale venait de les toucher à cause de leur désobéissance. C'est ce qui continue à arriver de nos jours. Mais quelque chose d'autre se passa dans le jardin d'Éden. Une voix différente de celle du Créateur avait susurré à l'oreille de notre mère Ève cette affirmation « Vous ne mourrez point ». Cette idée que Dieu avait en réalité menti à ses créatures était venue d'un être que la Genèse appelle le serpent ancien. Plusieurs milliers d'années plus tard, l'apôtre Jean identifie ce serpent en l'appelant le diable et Satan. Il le décrit comme étant le séducteur des nations. Nous nous trouvons en face de deux affirmations contradictoires. L'une vient du Seigneur disant « Le jour où tu en mangeras, tu mourras ». L'autre émanant de celui que les Écritures qualifient de séducteur insiste « Vous ne mourrez point ». La première est, comme nous l'avons vu, confirmée par des faits évidents. Quant à la deuxième, est-il utile d'en parler? Chacun sait que chacun meurt tôt ou tard. La mort est une réalité absolue au sujet de laquelle la Bible dit dans le livre de l'Ecclésiaste « Les morts ne savent rien. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. » Mais revenons un peu sur l'affirmation du serpent. Vous ne mourrez point. S'est-elle confirmée au cours des temps? Jésus, en parlant du serpent, l'appelle le père du mensonge. Si, par conséquent, ce que relate le livre de la Genèse est vrai, et si Jésus savait exactement ce dont il parlait, nous devrions pouvoir prouver que le but de Satan à propos de la mort n'était qu'une vaste tromperie. Par ailleurs, le Saint-Esprit, dans les pages des Écritures, appelle ce serpent ancien celui qui séduit toute la terre. Une fois de plus, nous devrions trouver les manifestations de cette séduction trompeuse dans l'univers tout entier. Mais le pouvons-nous? Bien sûr. Satan avait formellement promis que le fait de manger du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, n'aurait aucune influence sur la mort. Or, Adam et Ève, ainsi que leurs descendants, sont morts ou mourront un jour. Satan se trouva dans l'obligation de faire quelque chose à ce sujet. On ne pouvait évidemment s'attendre à ce qu'il admette qu'il avait faussement accusé Dieu d'être un menteur. Il fait un autre pas dans le mensonge, en amenant les gens à croire que ce qui semblait être la mort n'était en réalité que la porte donnant sur une autre forme de vie, soit plus haute, soit plus basse. À cause de sa peur innée de la mort, la presque totalité du monde préféra continuer à croire à ce même mensonge. La mort n'existe pas. Au travers de cette vaste supercherie, la plupart des gens furent amenés à croire que la mort, qui loin d'être une ennemie, devait au contraire être considérée comme une amie. Tout ceci va bien entendu à l'encontre de ce que dit la Bible, affirmant par exemple en 1 Corinthiens 15 et 26 que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. L'espoir d'une vie glorieuse future existe cependant. Non pas à cause que la mort n'existe pas, mais bien parce que l'homme meurt pour ensuite ressusciter. Comment pourrons-nous toutefois nous présenter devant notre Créateur dont les lois ont été sciemment violées? Sur quoi doit-on baser l'espoir que chacun peut avoir l'occasion de rentrer dans les faveurs de Dieu et de jouir à nouveau du privilège de vivre éternellement dans un bonheur parfait? Dieu annulera-t-il son décret de condamnation sur notre simple promesse de mieux faire à partir d'aujourd'hui? La Bible, il s'agit ici d'une certitude absolue, nous montre le plan conçu par Dieu, permettant à la race perdue des humains de retrouver l'harmonie dans laquelle l'homme vivait au début avec son Créateur. Toutefois, si nous voulons apprendre la vérité sur ce point précis, il y aura lieu de procéder avec prudence et par étapes successives. Il est évident que nous ne trouverons jamais de réponse satisfaisante à nos questions en nous plongeant dans la théologie traditionnelle, en espérant y trouver une base raisonnable, à la fois à une espérance réconfortante. Limitons donc nos recherches à la Bible elle-même. Jusqu'à présent, nous avons constaté qu'elle est en harmonie avec les faits bien connus et établis, ainsi qu'avec la raison. Tout ceci nous donne confiance en elle. Il ne serait toutefois pas raisonnable de s'attendre à ce que les Écritures nous donnent la solution satisfaisante à l'ensemble du problème que constitue la destinée humaine. Le livre de la Genèse montre amplement que le Créateur, même au commencement, avait décidé de faire plus pour la race humaine que de simplement la condamner à mort. Ce livre dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse est donc en quelque sorte limitée à ce que la postérité de la femme devra écraser la tête du serpent. Il s'agit bien entendu d'une déclaration plutôt vague et indéfinie. Toutefois, on comprend à l'allure des révélations divines qui vont suivre qu'elle est en réalité merveilleusement remplie de signification. En Apocalypse chapitre 20, jusqu'à la fin de la Bible. L'apôtre Jean déclare que dans une vision, il aperçut un ange qui descendait du ciel et qui lia le serpent ancien, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Il s'agit là d'une image prophétique décrivant l'accomplissement de la promesse, malgré tout assez vague, de Genèse chapitre 3, verset 15, disant que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. En d'autres termes, notre Créateur, utilisant un langage hautement symbolique, nous assure par le Saint-Esprit que le péché de nos tout premiers parents n'est pas le résultat d'une flétrissure durable imposée au genre humain, mais qu'à une époque donnée, un moyen de guérison certain prendra ses effets et que le serpent lui-même sera détruit. Nous avons donc en quelque sorte localisé les deux extrémités de la promesse divine. Dans le premier livre de la Bible, la tête du serpent sera écrasée, dans le dernier, la vision donnée par le Saint-Esprit est que ce même serpent sera lié et finalement détruit. Mais nous ne pouvons nous arrêter ici. Il faut au contraire poursuivre nos recherches dans les Écritures pour y découvrir de plus amples détails sur la manière dont le travail mensonger de Satan à propos de la mort effectué dans le jardin d'Éden est détruit et comment l'homme peut retrouver le Dieu dont il s'est écarté, dont il s'est séparé à cause du péché. Hélas, le temps passe, il me faut vous quitter sans avoir pu poursuivre. Ce n'est que partie remise, car la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour continuer cette rencontre. Ce programme vous est offert par Méditation biblique au micro. Jacques postal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Et je vous répondrai personnellement. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie sans aucun engagement de votre part. Qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef est Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne sait pas. Thank you.